Allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Crugère.
Sortez.
Bonjour, nous sommes à table avec Louis Misson et nous écoutons la grande poétesse Gabriela Mistral et nous allons écouter, souffler Mistral dans la vallée du Pisco. Louis Misson, Gabriela Mistral, c'est un petit peu votre marraine en poésie?
C'est un peu la mère de tous les Chiliens, elle qui n'a jamais eu des enfants. Gabriela Mistral, c'est un personnage vraiment mythique, même en vie. C'est la première fois, je suis très ému parce que c'est la première fois que j'entends sa voix. Un journaliste a fait un reportage à Gabriela Mistral. Elle était à ce moment-là maîtresse de petite école dans le nord de Chili. Il vient la voir et il est extrêmement frappé par la manière comme Gabriela Mistral lisait ses vers, la poésie. Il disait, il lit avec un rythme très grave, très profond, et que finalement donne un sens un peu magique à sa voix, à ses paroles. Ce qu'il dit dans ce que vous m'avez fait entendre là, c'est « je ne veux pas qu'on transforme ma fille en hirondelle ». Mais elle insiste, elle dit « je ne veux pas qu'on transforme ma fille en hirondelle ». Et alors on commence à croire qu'on peut la transformer. Ça, ce sont des souvenirs parce que quand j'étais enfant, ma mère disait ça à ma sœur.
Il voulait pas transformer sa fille en hirondelle,
oui,
non plus.
Voilà, comme une chanson, parce que ce sont des petites chansons pour les enfants, pleines de tendresse.
Alors, je vous propose de la réécouter cette fois sans l'accompagnement musical de Catarina Claro. Gabriela Mistral, c'est un document assez rare.
Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa, con zapatitos de oro, como juegan las praderas. Y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirían al trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina.
Ah, c'est merveilleux, hein? Alors, elle continue à demander, je ne veux pas que ma fille, on la transforme en princesse. Et après, elle dit, je ne veux pas que ma fille devienne reine. Je ne pourrais pas la toucher, je ne pourrais pas me coucher avec elle, etc. C'est vraiment très tendre.
Alors, Louis Misson, quand on pense à Gabriela Mistral, on pense aussi à celui qui a inspiré son pseudonyme, c'est le provençal Frédéric Mistral, un autre prix Nobel, le seul prix Nobel provençal. Pourquoi ce lien? Et alors, parce que pourquoi dans notre...
Je pense que c'est clair pour moi. Pour moi, et je pense à Mistral, je vois la Rhône, non, les fleuves. Je pense à Gabriela Mistral et on voit tout de suite les paysages du nord du Chili où elle est née, ou bien du sud, parce que où elle a travaillé, mais en tout cas les paysages. Moi, je pense que ce sont des poètes de la terre qui font vivre tout de suite dans la poésie. Ils évoquent la nature d'une manière très sensible, parce que c'est la nature, mais aussi les gens. cette finesse populaire, finalement, qui s'exprime si bien, pas seulement dans la poésie, sinon dans la cuisine aussi. On ne sait pas très bien où finissent les... Quelles sont les limites d'une assiette. Sont dans les paysages? Moi, je suis convaincu que oui. Que finalement, on mange, pas seulement... Ça n'a pas de sens. Manger simplement ce qu'il y a dans l'assiette. On mange beaucoup plus. On mange le ciel, la mer, les paysages, tout ce qui entoure. Bon. Moi, je pense que c'est très poétique. Bon, on dit, on peut se libérer par la poésie. Est-ce qu'on peut se libérer par la cuisine aussi?
Ben certainement, certainement. Et alors, et on peut se libérer aussi par un cocktail assez joyeux, qui est le pisco sour.
Il y a au Chili, on parle de roto sour aussi, que c'est la même recette, mais faite avec eau de vie ordinaire. Le roto sour, ça serait le niveau le plus populaire de même cocktail, qui consiste uniquement à mélanger l'alcool de pisco, de le mélanger avec des jus de citron, à peu près, je pense que c'est la même proportion. Hein. Mais ça, c'est matière de discussion comme tous ces genres de choses.
Et jus de citron vert. Hein.
De citron vert, mais il y a encore une autre discussion, puisque par rapport à ça, il y a un citron, que c'est un petit citron qui pousse dans le nord du Chili, dans un petit oasis qui s'appelle Pica, et dit al fort des citrons de Pica. Bon. Alors, et donc, parce qu'ils sont très parfumés, parce qu'ils sont petits, mais pleins de jus et de parfums, tout ce qui est au nord du Chili, il n'y a pas beaucoup d'eau, est concentré, concentre énormément les goûts et les parfums. Tout. Maintenant, fondre l'huile d'olive, par exemple, c'est la même chose. Une petite goutte d'huile d'olive faite dans le nord du Chili, on dirait que c'est un rocher exprimé et qui explose après sur l'assiette.
Louis Pisson, j'aimerais que vous nous fassiez goûter ce paysage du nord du Chili où l'on peut goûter le pisco.
Une manière de... Bon, avec un poème. Un cactus des mille bras en feu, fleuri sur mes pas. Les étoiles font un bruit de cigales. Mon corps sans épine se transforme en musique. Un homme n'est qu'une île sur la terre aride, mais sa semence d'étoiles blessées a besoin de la mer, de l'arbre et de l'oiseau. Bruit des étoiles. C'est, pour moi, cette image correspond à la réalité de ces paysages chiliens, de ces régions précises, des vallées de Elqui, où il y a les Pisco, il y a Gabriela Mistral, et il y a aussi les observatoires astronomiques des montagnes de la cordillère qui correspondent à ces régions-là. Sont El Tololo, ça c'est le nom de la montagne. Et là, il y a des observatoires astronomique extrêmement important. L'observatoire astronomique européen est placé là. Et pour quelle raison? Parce que il n'y a pas la pollution atmosphérique. La pollution atmosphérique, c'est pas seulement la fumée, hein, c'est surtout aussi la lumière des villes. Comme il y a sont des zones désertiques immenses, sans lumière, il n'y a que la lumière des étoiles. Pas une autre lumière. C'est encore une sensation très différente. On voit la lumière d'une manière comme tellement puissante, ces lumières venues d'ailleurs, venues de la nuit, qu'on confond le silence immense désertique avec les bruissements des étoiles. Moi, j'avais dit un jour que ça me rappelait un bruit comme des fritures même, que font les étoiles. À plus de ça, la quantité d'étoiles est immense. Immense. Mais je pense, je ne peux pas l'affirmer, mais je crois qu'il y a plus d'étoiles dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. Au moins, il y a plus d'enfants, on dit aussi. Il y a la mer, et la mer pleine de poissons et des oiseaux, c'est un peu savoir plus ou moins ensemble. Mais d'une manière, ça m'est arrivé aussi de voir ça, je pense, mais c'est plutôt rare dans d'autres pays. Mais c'est-à-dire quand la mère a une grande tache des oiseaux qui sont en train de manger
des bancs de poissons entiers.
Des bancs de poissons entiers, oui, voilà. Et donc, mais quand ça approche, par contre, la plage, les vagues sont remplies de poissons. Et les poissons restent en train de sauter sur la plage. Et c'est ça les scènes qu'on voit.
Et alors, ce nord du Chili, qui n'est pas très loin du sud du Pérou, nous amène à une question extrêmement grave, politiquement parlant, qui est, qui a inventé le pisco?
Mais voilà, quelque chose très grave, en effet. Et on ne peut pas vraiment jouer avec ce genre de choses, non ?
Mais on ne joue pas.
Et par contre, il me semble, je pense, franchement, qu'il faut reconnaître que les premières origines de la vigne, les récents en Amérique latine, ça c'est incontestable, c'est plutôt péruvien.
Alors, le pisco, ce qu'on peut dire, hein, c'est que c'est une distillation sensiblement comme le cognac. Simplement, c'est une distillation de raisin qui ne finit pas dans un fût en chêne. Donc, il va conserver une couleur transparente. Hein,
oui, oui, c'est ça.
Et dans des grands pays de vin, d'ailleurs. Hein, le Chili, c'est un des grands pays de vin. Mais alors, vous n'avez pas répondu à la vraie question polémique, ce drame tragique, cette guerre.
Non, je l'ai dit de façon diplomatique, parce que je n'ai pas envie de me faire couper par des gens, par des Chiliens qui écoutent. Mais il me semble évident qu'à la base, ce sont quand même... les Péruviens. Mais par contre, ce qui existe, c'est qu'il y a une appellation pisco chilien. Et donc, depuis, on peut dire, depuis le 18e siècle à peu près, il y a déjà, on connaît des eaux de vie qui sont pisco chilien. Et le Chili a parfaitement le droit d'appeler pisco ce qui était produit dans sa région. C'est pas parce que les autres faisaient la même chose, et même avant, on peut leur donner la priorité, mais pas l'exclusivité.
Ben oui.
Hein, il me semble évident. Donc, les Chiliens ont tout à fait le droit d'appeler pisco, leur pisco.
Alors, ce que je vous propose pour fêter ça, c'est d'écouter Seigneur Coconut, qui va nous jouer le pisco contrôle. Donc, nous allons tester le pisco contrôle.
Hablamos con la boca llena. En France Cultura, emisión de Alain Kruger.
Louis Misson, pourquoi le pisco a un rôle si important dans la culture chilienne?
Mais c'est l'alcool parfumé fort, bon marché. Et ça se mêle aussi, ils font des pisco avec Coca-Cola. À Coca-Cola, ça résiste n'importe quoi, hein, on peut mettre tout dedans. Mais par rapport à la grappa qui existe aussi au Chili, surtout dans la région de Chillán, ça veut dire vers le centre agricole chilien, c'est un autre alcool, encore beaucoup plus fort, moins parfumé, et c'est pas la même chose, le pisco est plus fin quand même. C'est beaucoup plus fin. Et donc, il y a plusieurs cépages, donc des cépages plus ou moins parfumés. Aussi, dans les dosages, il y a ce qui peut faire plus sucré, moins sucré. Le grand avantage de ces pisco, c'est qu'il peut balancer les trois goûts principaux. L'acide, l'amer, et aussi les goûts même de l'alcool, non? Donc... on a
le sucré, oui.
Non, le sucré. Mais on peut nuancer tout ça. Il y a des gens qui préfèrent plus sucré, moins sucré. Mais aussi, il y a des écoles qui se divisent, qui discutent dans les scolastiques de Pisco Sour, qui c'est par rapport, est-ce qu'on ajoute ou pas des blancs d'œufs? Pourquoi? Parce que les blancs d'œufs, dans la machine ou dans la main des barman, va donner une sorte d'écume comme des vagues.
Oui, comme la mer. Comme le Pacifique.
Comme le Pacifique. Hein? Et alors, ben, est-ce que c'est nécessaire d'ajouter des blancs d'œufs pour avoir l'illusion de l'écume marine?
Que répond le poète?
Moi, je pense que vraiment, on peut s'en passer des blancs d'œufs. Moi, je pense que les blancs d'œufs, on l'a dans le regard. Ça suffit largement.
Et Louis Bisson, quand on évoquait tout à l'heure ces bancs de poissons, la population qui est quand même pas très nombreuse sur le bord du Pacifique à cet endroit-là, se régale de quel type de poissons?
Ce sont des poissons, les poissons du nord du Chili. Il y a toutes sortes de poissons, hein. Bon, des sardines. Il y a les maquereaux. Je pense que c'est l'équivalent des maquereaux qu'on appelle là-bas jurel. Mais il y a aussi toutes sortes de poissons. Les poissons les plus fins sont les poissons collés aux roches. Ce sont des poissons de chair extrêmement fine. Il y a l'un qui est un homme très moche, mais c'est absolument délicieux. Il est tellement moche qu'il y a des gens qui ne le mangent pas ils se sauvent à cause de ça. C'est le peje sapo. Je traduis littéralement poisson crapaud. Il est noir, il a une ventouse dans le ventre, il est huilé, on dirait qu'on a versé l'huile, il brille comme ça. Si on le touche, il est très doux, mais il faut beaucoup de courage en fait pour le caresser. Et lui, il est capable de vivre, de survivre, c'est à grâce à la ventouse, évidemment. Et parce que quand la mer se retire, elle reste donc collée aux roches. Mais donc, il reste un peu amphibio, non? Il peut vivre longtemps comme ça. Mais il y a beaucoup d'autres. La mer sauvage du nord du Chili n'a pas de grandes villes autour. Il y a beaucoup donc de poissons en liberté. On peut dire. Et simplement, il y a les oiseaux pour les manger. Et il y a les amateurs de ceviche qui rôdent toujours dans les plages aussi en regardant avec lesquels pourrait faire un merveilleux ceviche.
Vous faites, Louis Smithson, vous faites des ceviches?
Non, ce sont les Péruviens, mais maintenant tous les Chili font des ceviches. Pour quelque chose de très merveilleux qui se produit au Chili, que c'est l'arrivage massif des femmes péruviennes qui savent faire très bien une cuisine merveilleuse et qui sont rentrées dans des maisons chiliennes pour garder des enfants, pour faire la cuisine. Ce sont les nanas. Comme le Chili a eu un développement économique plus important que le Pérou, alors ces pays voisins, toujours en guerre des limites et des frontières stupides avec le Chili, mais finalement, ce sont les femmes qui arrivent et qui changent le monde. Parce que maintenant, le Chili a dit, mais qu'est-ce que c'est bon manger comme les Péruviens? Et il y a des restaurants péruviens partout, ce qui a adouci énormément les rapports traditionnellement hostiles entre le Chili et le Pérou. Parce qu'on ne peut pas manger en même temps des choses délicieuses et continuer à penser que celui qui fabrique ça, c'est quelqu'un de nul. Non, absolument pas. Donc il y a un énorme respect qui se crée au Chili pour la culture péruvienne grâce au ceviche, mais pas seulement le ceviche. Hein. Il y a beaucoup de plats péruviens qui sont incorporés aux mers chiliennes actuellement.
Louis Smithson, puisqu'on parle de poète face à la mer, on va écouter Angel Parra.
Le pauvre Angel est mort il n'y a pas longtemps, vous savez. Hein. C'est un ami à moi.
Hay un poeta en mi tierra que vivía frente al mar. Amaba las mariposas, las rocas, la soledad. Hay un poeta en mi tierra que negra frente al mar, con su pupila perfecta, él nos enseñó a mirar. La tela de la cebolla, de Lautaro el galopar, con su pupila perfecta, él nos enseñó a mirar. Tenía voz de profeta y despacio el caminar.
Ángel Parra.
Là, il fait l'évocation de Pablo Neruda, le poète face à la mer, parce que c'est ou bien à Valparaíso, ou bien à Isla Negra, c'était les derniers sons qu'il avait au Chili. Bon, il est face à la mer, toujours.
Alors, on va l'écouter justement, ce poète face à la mer. On va écouter quelques mots de Pablo Neruda.
Buenos días. ¿Puedo pasar? Me llamo Pablo Neruda. Soy poeta. Vengo llegando ahora del norte, del sur, del centro, del mar, de una mina que visité en Copiapó. Vengo llegando de mi casa de Isla Negra y te pido permiso para entrar en tu casa, para leerte mis versos, para que conversemos.
Louis Smithson, je vous vois ému en écoutant Neruda.
Oui, c'est Neruda qui demande la permission de rentrer à la maison de celui qui écoute pour les lire ses poèmes. Alors, c'est très curieux quand on entend la voix de Neruda, parce que nous, les jeunes poètes, quand on était jeunes poètes au Chili, toutes les jeunes poètes chiliennes aiment imiter Neruda. Par contre, c'est vrai que tout le monde a imité Neruda, jamais quelqu'un a imité Gabriela Mistral. Gabriela Mistral est inimitable.
Et Gabriela Mistral qui vous accompagne, enfin, est-ce qu'elle a inspiré aussi Francis Amunategui, qui était un grand amoureux du Chili, lui aussi, et des mets et des mots?
Oui, Francis Amunategui, c'est vraiment un phénomène de conversion à la, je dirais pas à la cuisine, sinon à l'approche poétique de la cuisine, que c'est une tradition française d'ailleurs. Comment on parle des choses qu'on aime, comment on parle, c'est un peu qu'on parle carrément d'amour, hein? Mais comment qu'on parle de la cuisine, des restaurants, de comment on mange, de qui, quoi, quand, comment, avec qui? Tout l'ensemble, c'est à partir des Grimoire de la Reynière, je pense au 18e, que ça commence en France. Et bon, lui, Francis Amunategui, d'une grande famille de Chili au 19e siècle. Alors bon, il y a quelqu'un qui commence pour être un ingénieur en France. Tous les Chiliens venaient en France pour faire des études à ce moment-là. Et alors il dit, non, c'est pas l'ingénierie qui me plaît. Je veux la cuisine. Ah, faire la cuisine? Non. Je veux écrire sur la cuisine. Et Francis Amunategui devient donc un critique gastronomique français au fond.
Tout en restant ingénieur.
Tout en restant ingénieur. Mais je ne sais pas c'est l'ingénierie, de quelle manière agit dans sa manière de composer ses récits ou ses plats. Surtout cette approche poétique de nous faire sentir au-delà des goûts des choses, de nous faire vivre l'immensité qui existe autour de la culture, ce raffinement nostalgique qu'il y a parfois autour de quelques nourritures, même parfois très simples. Hein. Il fait, en certain moment, la critique des bistecs à l'eau pauvre. Bon, les bistecs à l'eau pauvre, c'est un bistec, simplement, l'oignon frit, l'œuf au plat et les frites. Tout ça, on l'appelle bistec au pauvre, c'est-à-dire à la manière des pauvres. C'est un plat qu'on mange au Chili. Lui, il se rappelle. Mais il ne sait pas très bien, déjà. Je pense qu'il était en France depuis qu'il était petit enfant. Et donc, il se rappelle de ces sortes de plats. Il donne la recette dans les brumes imaginaires et nostalgiques, comme dans un film de Berman, dans lequel on voit comment on plonge dans le passé et on arrive tout de suite à une salle à manger.
Et vous, Louis Smithson, si on plonge dans le passé et qu'on arrive à une salle à manger, qu'est-ce qu'il y a dans votre assiette? Quel est le paysage de votre assiette?
Si vous me faites penser à ça, je pense probablement la fête de la fin de ce qu'on appelle fin de trilla. La fin de trilla, c'est on finit tous les travaux de la campagne. Et les paysans font une fête. C'est une fête où les propriétaires terriens sont aussi invités. Et ce qu'on fait, c'est l'asado al palo. Et l'asado al palo, c'est un mouton. En fait, c'est comme les michuis, non? Mais fait à la manière chilienne, avec la salade qu'on appelle chilienne, on pense que c'est très original, mais en fait c'est l'oignon et des tomates, hein, et le mélange oignon et tomate, on l'appelle chilienne. Bon, hein, on peut pas dire qu'il est vraiment la raison. C'est simplement, on se l'a approprié, non, et on l'a ajouté le nom de chilienne. Mais c'est surtout l'atmosphère de manger ça la nuit, à la campagne, ce sont qui ont travaillé pendant tout le temps et qui maintenant sont en train de boire, de manger, et il y a les étoiles, il y a une ambiance absolument merveilleuse, ces odeurs de l'été chilien, ce monde à la fois très archaïque aussi de la campagne chilienne, les blés coupés, des odeurs partout, absolument des odeurs partout, les parfums de la terre et les étoiles.
Merci Louis Smithson pour cet enchantement chilien, et je vous propose de terminer cet enchantement par l'enchantement de Gabriela Mistral.
Este niño es un encanto, parecido.